Alors la semaine dernière, on a vu l'importance d'être chacun un serviteur qui soit prêt pour le service que Dieu pourrait lui confier. Et on a vu ensemble les diacres en chapitre 6, acte 6. Et ces diacres ne sont finalement qu'une image de ce que nous devrions tous être, chacun individuellement. C'est-à-dire des serviteurs qui sont prêts, qui sont disponibles pour faire ce que Dieu veut que nous fassions. Et ce matin, on va voir un de ces serviteurs en particulier, donc c'est Étienne. Étienne représente un bon serviteur, c'est-à-dire un serviteur auquel, un exemple auquel nous devons aspirer. Peut-être qu'on se sent loin d'Étienne ce matin, mais on doit aspirer au moins à vouloir s'approcher pour devenir comme Étienne, celui qui n'a pas un but dans sa vie, qui ne vise pas quelque chose, eh bien, il n'atteint rien. Il tourne en rond et il ne fait rien et il faut avoir des buts. Et le Seigneur nous enseigne à prendre des modèles. Paul a dit, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards vers ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Donc, un but, un modèle. Dieu veut qu'on prenne des exemples et les Écritures nous donnent des exemples d'hommes, de femmes qu'il nous faut imiter, qu'il nous faut suivre. Et là, ici, eh bien, il y a le serviteur Étienne. Et j'ai trouvé en Étienne cette caractéristique d'un bon serviteur du Seigneur. Et je pense que ces caractéristiques devraient se trouver chez chacun de ses enfants, chacun de ses serviteurs. Alors la première caractéristique, c'est que Étienne est rempli parce qu'il est vide. Il est rempli parce qu'il est vide. Il était rempli du Saint-Esprit. On le lit d'abord en acte 6. Peut-être on va lire acte 6, verset 5. Il est dit, « Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. » Donc ça, nous avions vu ça la semaine dernière, donc ils ont choisi Étienne parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et puis ensuite, on voit au verset 8, regardez, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Et il le faisait donc par le Saint-Esprit, donc il était rempli du Saint-Esprit. Et puis ensuite, tout à la fin, on a lu ce verset tout à l'heure, verset 55, chapitre 7, il est dit, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et donc, nous voyons ici Étienne qui était rempli du Saint-Esprit. On en a parlé un petit peu la semaine dernière, mais on peut en parler un peu plus ce matin, rajouter quelque chose. C'est que on ne peut pas remplir ce qui n'est pas vide. Pour remplir quelque chose, il faut que ce soit vide. C'est une vérité de la palisse. Mais le principal obstacle au fait d'être rempli du Saint-Esprit, c'est nous-mêmes. Parce que nous sommes pleins de nous-mêmes, parce que nous sommes pleins de nos passions, parce que nous sommes pleins de notre égoïsme ou pleins de nos convoitises, alors Dieu ne peut pas remplir. Dieu ne peut remplir que ce qui est vide. Étienne était vide. Il avait renoncé à lui-même, il avait renoncé à vivre sa vie. Et il faut parfois se présenter devant le Seigneur et puis vider son cœur devant lui, se vider, c'est-à-dire confesser ce qui est une entrave à la plénitude du Saint-Esprit. Se présenter vide, c'est-à-dire prêt à tout, acceptant tout, renonçant à tout. Il n'y a que comme cela que, eh bien, Dieu peut nous remplir du Saint-Esprit. Et on peut vivre la vie chrétienne à moitié, c'est toujours possible. C'est même une expérience par laquelle nous passons. Tous les enfants de Dieu vivent dans un moment, dans cette expérience où on vit la vie chrétienne à moitié. Le cœur n'est plus concentré sur la personne de Jésus-Christ, sur sa vie. Mais il est plutôt concentré sur des choses qui sont annexes et qui sont sans importance, qui font partie de cette vie, mais qui ont une importance qui est secondaire. Et ça vient prendre la place de Christ. La vie avec le Seigneur, elle devient alors quelque chose qui est secondaire. C'est, oui, il y a la vie en Christ, il y a la vie chrétienne, mais c'est secondaire. Hein. Avant, eh bien, c'est le travail qui compte. Avant, c'est la famille qui compte. Avant, c'est mon plaisir qui compte. Avant, c'est ma vie qui compte. Mais l'important n'est plus Christ, n'est plus la volonté de Christ. Et quand Christ n'est plus à la première place, alors, eh bien, l'enfant de Dieu n'est plus rempli. Parce qu'il y a d'autres choses qui sont venues remplir son cœur. L'Esprit est là. Celui qui l'a accepté, l'Esprit est en lui, il ne le quitte pas, mais il ne le remplit pas, il ne peut pas prendre toute la place. Et si Étienne était rempli de l'Esprit, la première chose, c'est parce qu'il était vide. Ensuite, la deuxième caractéristique d'un bon serviteur, c'est qu'il est haï parce qu'il est aimé. Et je fais volontairement cette opposition, haï parce que aimé, c'est-à-dire haï de certains hommes, parce qu'il est aimé de Dieu. Et il y a une logique dans cette vérité, c'est que quand un cœur est vide et quand le Saint-Esprit le remplit de sa personne, alors il commence à y avoir des réactions qui sont épidermiques. Pourquoi ? Parce que les hommes, tous les hommes, ne supportent pas Dieu, n'acceptent pas Dieu. Le bon serviteur, il n'est pas aimé du monde. Il est aimé de ceux qui aiment la vérité. Il est aimé de ceux que Dieu incline en sa faveur, mais il n'est pas aimé de tous les hommes. Étienne, on le voit ici, va être rejeté, il va être haï, jusqu'à même être lapidé. Et la présence de Dieu en nous peut provoquer un rejet, qui n'est pas forcément un rejet de notre personne, mais qui est un rejet de la personne de Dieu, qui devient insupportable pour certaines personnes. Jésus a dit qu'il est... Dans sa parole, c'est Jean qui nous le rapporte, il a dit « Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. » Pourquoi ? Parce que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jésus-Christ n'était pas aimé des hommes et il nous a adressé ces paroles. Regardez Jean chapitre 15, Jean chapitre 15, 18 à 21. Il est dit « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Et le Seigneur le dit lui-même ici, il dit que le rejet, la haine et la persécution, c'est à cause de son nom, à cause de sa personne, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas de relation avec Dieu, ils n'ont pas reçu Dieu et ils n'aiment pas Dieu. Alors de ce fait, ils rejettent et ils rejettent ceux en qui Dieu habite. Ceux en qui Dieu se manifeste, ceux qui parlent, qui agissent de sa part. Jésus a dit « Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. » Donc il n'est pas plus protégé que son maître, il n'est pas plus à l'abri que son maître. L'histoire nous montre que les chrétiens fidèles ont été, et aujourd'hui encore, Viviane le priait, sont persécutés et vivent des choses qui sont difficiles. Pourquoi ? Parce que le monde n'aime pas le Père et le monde n'aime pas le Fils. Et quand le Fils se manifeste dans le cœur d'un chrétien, alors eh bien le monde le rejette. Mais ce qui est encourageant, c'est que le bon serviteur, il a aussi un impact par ses paroles. C'est ce que Jésus a dit. Il dit « S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Et il faut remarquer ce qui est dit en Acte. Regardez Acte, on reprend notre chapitre. Acte 6, verset 7. Il est dit « La parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. » Et puis ensuite on parle d'Étienne. Et il est certain qu'Étienne avait une part ici. C'est qu'il était en train de parler, il était en train d'annoncer Jésus-Christ, et même une grande foule de sacrificateurs retenait les paroles et se convertissait à Jésus-Christ. C'est incroyable ça. Une grande foule de sacrificateurs. Tous ceux qui faisaient les sacrifices dans le temple entendaient les apôtres, ils entendaient Pierre, Jean et puis Étienne, et ils retenaient cette parole et se convertissaient. Et c'est une récompense pour le serviteur de Dieu qui est fidèle, le bon serviteur. Il reçoit des coups, mais on retient sa parole, ça porte du fruit. Troisième caractéristique d'un bon serviteur, c'est qu'il est calomnié parce qu'il se tient dans la vérité. Du fait de sa marche fidèle avec le Seigneur, Étienne disait les choses avec vérité. Il y a, donc on le lit ici, on peut le prendre, chapitre 6, verset 9, acte. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie, d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils soudoyèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes. Et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. » Et ici, on voit eh bien, ces Juifs qui ont commencé à se rassembler pour s'opposer à Étienne parce qu'ils ne supportaient pas qu'Étienne puisse leur résister avec la sagesse, avec l'Esprit de Dieu, parce qu'Étienne se tenait dans la vérité, il annonçait la vérité. Alors, eh bien, il était comme inébranlable, il était intouchable, ils essayaient de le coincer avec la parole de Dieu, ils n'y arrivaient pas. Alors, eh bien, ça a provoqué la calomnie et le mensonge. Quand quelqu'un se tient dans la vérité et qu'on ne peut pas l'atteindre, alors eh bien, on commence à dire des mensonges sur lui. On commence à dire du mal de lui. Et c'est ce qui s'est passé pour Étienne. Ils vont produire des faux témoins. Et quelles sont les fausses accusations à son encontre? D'abord qu'il professe des paroles blasphématoires contre Dieu et contre Moïse. Et puis ensuite, qu'il profère des paroles contre le lieu saint, contre la loi, disant que Jésus allait détruire le temple et changer les coutumes que Moïse a données. Alors là, devant le Sanhédrin, Étienne a l'occasion de parler. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Donc une longue prédication qui est finalement tout un résumé de l'histoire du peuple juif. Il va raconter toute l'histoire de sa nation, l'histoire de son peuple. Il commence avec Abraham, il passe par Isaac, Jacob, les 12 patriarches, Joseph, et puis il arrive à Moïse, et là il va expliquer en détail la vie de Moïse, sa sortie d'Égypte, la traversée du désert, l'Exode, Aaron, puis Josué, David, Salomon, construction du temple. Et en faisant cela, qu'est-ce que fait Étienne? En fait, il se défend contre ces accusations qui étaient complètement mensongères. Son développement prouve qu'il ne blasphème en rien, ni Moïse, ni Dieu, ni la parole de Dieu, ni le temple. Et un bon serviteur, c'est quelqu'un qui, eh bien, partage la vérité, se défend avec la vérité. Et il connaît sa Bible. Un bon serviteur, il connaît sa Bible. C'est incroyable le résumé qu'Étienne là donne d'un trait comme ça de toute l'histoire. Ça veut dire qu'il connaissait bien et chaque détail, tout était bien clair dans son cœur. Un bon serviteur, c'est quelqu'un qui lit sa Bible. Ça ne veut pas dire qu'il sait tout, mais il ne cesse jamais d'apprendre. Il veut encore apprendre, il veut retenir, il veut que la parole demeure dans son cœur. L'apôtre Pierre nous donne cette exhortation. Il dit « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ce qui décrit votre bonne conduite en Christ soit couvert de confusion. » Et là, on retrouve ce qui se passe avec un bon serviteur. Il est calomnié, il est décrié, mais lui, eh bien, il faut qu'il se défende avec douceur, avec respect. Il dit, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. C'est-à-dire, voilà, mettez Christ à part dans vos cœurs. Réservez-lui cette place dans vos cœurs qui soit sur le sanctuaire de votre cœur, qu'il règne sur votre cœur, qu'il soit à part. Demeurez en Christ. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que comme cela qu'on peut vraiment se défendre. Si on ne demeure pas en Christ, on ne peut pas se défendre contre les attaques. C'est impossible. Celui qui ne demeure pas en Christ, il est balayé d'un coup par le diable. Il faut demeurer en lui et alors, eh bien, on peut répondre, on peut se défendre. Il faut se tenir dans la vérité. Ensuite, une quatrième caractéristique du bon serviteur, c'est qu'il peut parfois reprendre parce qu'il a autorité de le faire. Et on a lu ensemble ça, chapitre 7, regardez versets 51 à 53. Après avoir donné tout ce développement de l'histoire d'Israël, Étienne leur dit, « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté ? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers, vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. » Et on voit ici qu'un bon serviteur, c'est aussi quelqu'un qui va dénoncer le péché. Il peut être sévère parfois parce qu'il en a l'autorité. Christ, quand on regarde les évangiles, n'était pas tendre avec les pharisiens. Il était sévère, il disait les choses, il dénonçait le péché. Alors, eh bien, si Christ est en nous, eh bien, nous aussi, on peut reprendre, on peut redresser, on peut dénoncer quelque chose qu'il ne faut pas. Ces juifs religieux prétendaient servir Dieu, mais en réalité, Étienne le dit, ils avaient le cou raide, ils étaient incirconcis de cœur et d'oreille. Ils n'écoutaient pas la parole de Dieu, ils n'écoutaient pas ce que Dieu voulait leur dire, comme les juifs d'autrefois n'avaient pas écouté les prophètes, ils avaient fermé leurs oreilles. Jude nous dit, dans son épître, « Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. » Et donc le Seigneur veut qu'on reprenne. Il veut qu'on dise les choses. Ce n'est pas bien et vous n'êtes pas dans la vérité. Vous avez besoin de repentance. Vous avez besoin de Jésus-Christ. C'est important de le faire. C'est ce que Pierre a fait tout de suite après la Pentecôte. Il a prêché, il a repris sévèrement les Juifs. Et puis c'est ce que de nouveau Étienne ici a fait. Parfois, c'est aussi nécessaire de reprendre un frère. La parole de Dieu nous le dit, mais le ton ne devrait pas être le même. Paul nous dit, « Frère, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. » Et dans le contexte, c'est clair qu'il nous parle d'un frère qui est pris en faute, qui a chuté, qui fait quelque chose qu'il ne faudrait pas. Mais là, eh bien, il dit, voilà, avec un esprit de douceur, hein, sachant que, eh bien, si nous sommes debout, nous pouvons aussi tomber. Alors, il faut la grâce, il faut la bonne attitude pour le faire. D'ailleurs, il dit, il faut qu'il soit spirituel. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit en Christ. Il faut qu'il demeure en Christ, qu'il marche avec Christ. C'est là où il va avoir la bonne parole, la bonne attitude, la bonne manière de le dire. Être en Christ. Mais un bon serviteur, il ne va pas manquer de le faire. Cinquième caractéristique, le bon serviteur voit Christ parce qu'il a les yeux tournés vers le ciel. Regardez verset 55. Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et le bon serviteur, il a les yeux fixés vers le ciel. Il y a beaucoup de choses sur la terre qui veulent attirer, happer notre regard pour nous détourner du Seigneur. Mais le bon serviteur, il ne cesse pas de regarder Christ dans le ciel. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous le rappelle avec force. Vous vous souvenez de ce verset, chapitre 12, versets 1 et 2, quand il dit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. » Et là, on voit dans ce passage, il y a deux grands obstacles finalement à la marche chrétienne. Deux obstacles qui nous font dévier de notre trajectoire. La première, c'est l'inquiétude, ou tout ce qu'il y a derrière l'inquiétude. Fardeau, soucis, problème. Étienne, on peut dire, il était devant un grand problème. Et il pouvait avoir de la crainte dans le cœur. Il était devant le tribunal des Juifs, là, qui était en train de l'accuser. Mais il faut d'abord rejeter les fardeaux. Tout ce qui pèse sur notre cœur, il ne faut pas le porter. Dieu ne veut pas que nous portions quoi que ce soit. Il veut que nous assumions et nous prenions nos responsabilités. Il faut qu'on fasse ce que Dieu veut qu'on fasse, c'est clair. Mais il ne veut pas qu'on porte nous-mêmes nos fardeaux. Pour les fardeaux, il s'en charge, il a promis. Il a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ça n'empêche pas d'agir, ça n'empêche pas de bouger, mais dans la tranquillité, dans le repos, je me décharge, Dieu s'occupe de ça. Et puis la deuxième chose qui nous empêche de marcher, c'est le péché. Le péché qui nous enveloppe si facilement. C'est la deuxième chose qui nous fait manquer complètement le but. La vie chrétienne, c'est une course, ici l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, et le péché est quelque chose qui vient nous envelopper, qui vient nous séduire, qui vient nous prendre, en sorte qu'on s'arrête de courir. Et on n'est plus dans la course. La vie continue, les heures passent, les journées passent, les mois, parfois les années passent. Et on n'est plus dans la course. Parce que quelque chose nous a arrêtés. C'est l'ambition, des distractions, c'est une tentation, c'est une séduction, c'est une illusion. C'est quelque chose qui nous a enveloppés et qui nous a complètement détournés de la course et de la vie chrétienne. Alors il faut se poser la question, suis-je dans ma vie encore aujourd'hui en train vraiment de regarder uniquement vers le ciel, uniquement vers le Seigneur? C'est la question essentielle qu'il faut se poser. Le bon serviteur dépose ses fardeaux, et puis il rejette le péché, et puis il court les yeux vers Jésus, les yeux vers le ciel. Étienne avait les regards fixés vers le ciel. Mais il ne fait pas que fixer le ciel. Soudain, il voit la gloire de Dieu, et il voit Jésus debout à la droite du Père. Et non seulement le bon serviteur, il a les yeux fixés vers le ciel, il vit pour le ciel, mais il voit Christ. Il voit Christ. Quand on vit pour le Seigneur, alors on a aussi une meilleure vision de sa personne. Une meilleure connaissance de sa personne. L'intimité avec Christ, la connaissance de Christ, ça ne vient pas dans la pratique du péché et dans la désobéissance. Mais ça vient quand on court la course et qu'on a les yeux fixés vers le Seigneur et on garde ses yeux sur le Seigneur. C'est là, dans cette consécration, dans ce cœur qui est offert, qui est tourné vers le ciel, qu'alors on voit Dieu. On connaît Dieu. Et on le connaît de mieux en mieux et de plus en plus. Et ce n'est pas qu'il y a des chrétiens de première catégorie et des chrétiens de deuxième catégorie. Dieu ne fait pas de favoritisme, mais il y a des chrétiens qui lèvent les yeux, qui rejettent les fardeaux, qui ne veulent pas se laisser envelopper par le péché, qui luttent, renoncent et demandent au Seigneur la délivrance et qui gardent les yeux vers le ciel. Puis il y a d'autres chrétiens qui baissent la tête et puis qui s'occupent de la terre et qui regardent à la terre et qui se concentrent sur les choses de la terre. Dieu veut qu'on ait les pieds sur la terre, mais il veut qu'on ait les yeux levés vers le ciel. Et qu'on soit dans le repos, dans la communion, dans la joie de la marche avec le Seigneur. Alors, dans quelle direction sont portés vos regards, Est-ce qu'ils sont plutôt vers les choses de la terre ou ils sont vraiment que vers le Seigneur? Sixième caractéristique d'un bon serviteur, c'est qu'il est en paix parce qu'il est protégé. Lorsque Étienne va voir, il dit qu'il voit le Fils de l'homme à la droite du Père. Alors là, la réaction, elle est immédiate. Regardez verset 57. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Ils le traînèrent hors de la ville et ils le lapidèrent. Ici, c'est un résumé en une seule phrase. Mais derrière cette phrase, pouvait deviner la violence. Ils l'ont pris par le vêtement, ils l'ont traîné sur les pavés, hein, en courant, et puis ils l'ont jeté en dehors de la ville. Et là, ils ont assouvi leur haine en lançant des pierres. Mais Étienne manifeste la paix dans cette circonstance. Ça ne cadre pas avec la circonstance, mais il est en paix. Regardez verset 59, 60. Et il lapidait Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis s'étant mis à genoux et s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Et après ces paroles, il s'endormit. Et on sent qu'il y a comme une grâce particulière sur Étienne. Il ne réagit pas comme quelqu'un de normal dans cette circonstance. Il est en paix parce qu'il a foi en son Seigneur. Il prie, il pardonne, il se repose. Et c'est une sixième caractéristique du bon serviteur. Il est en paix parce qu'il est protégé par le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il ne vit pas des souffrances. Étienne recevait les pierres. Il vit des choses difficiles, mais il est en paix parce qu'il sait qu'il est dans les mains du Seigneur, protégé. Et Étienne s'endort pour rejoindre son Seigneur. Septième et dernière caractéristique, le bon serviteur est accueilli parce qu'il a été fidèle. Et Étienne a cette vision de Christ debout à la droite du Père, ce qui signifie que le Fils s'est levé pour Étienne. Et il l'attend. C'est une vision magnifique, une vision incroyable. Mais aussi étonnant que cela puisse paraître, Jésus veut accueillir chacun de nous, comme un bon serviteur, en se levant pour nous. Étienne n'est pas un cas particulier. Et cette scène du livre des Actes, ça nous renvoie immédiatement à la parabole des talents. Souvenez cette parabole des talents en Matthieu, chapitre 25. Cette parabole nous enseigne que nous sommes les dépositaires de ce que Dieu nous a donné, nous a confié, ce que nous sommes, ce que nous possédons. Qu'est-ce que des talents? À l'époque, c'était une quantité d'argent ou une quantité d'or. Donc les talents, ça, c'était ici une représentation des richesses que l'on possède. Mais derrière les richesses matérielles, eh bien, il y a toutes sortes de richesses. Les talents, c'est ce que Dieu nous a donné. Et donc, c'est aussi les dons, c'est les capacités que nous avons. Et en français, c'est avantageux parce que le mot talent, c'est aussi les capacités à agir, à faire des choses. Nos talents, donc, en réalité, c'est surtout nos dons naturels que vous avez reçus à votre naissance. Et puis aussi les dons que vous avez reçus après votre conversion, comme des grâces. Et tous ces dons, toutes ces ressources, toutes ces capacités que vous avez, eh bien, vous en êtes responsable. Dieu les donne en dépôt afin que vous puissiez les faire fructifier. Parfois, on entend quelqu'un se plaindre de ne pas être capable de grand-chose pour servir le Seigneur. Et peut-être que la personne, effectivement, se sent dans la faiblesse, dans l'incapacité. Que peut-elle faire? À ses yeux, elle ne peut pas faire grand-chose. Mais la parabole des talents nous dit que nous avons tous reçu des talents. Nous avons tous quelque chose. Personne ne peut dire « mais moi, j'ai rien ». On a tous quelque chose. C'est un talent, c'est deux, c'est cinq, peu importe. Mais on a tous quelque chose. La question, c'est qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous en faisons pour Dieu? Ensuite, si vous êtes enfant de Dieu ce matin, quelle que puisse être votre faiblesse, vous avez le Saint-Esprit. Et Dieu peut vous remplir du Saint-Esprit. Et une personne qui est remplie du Saint-Esprit, elle est toujours capable de faire quelque chose pour Dieu. Parce que ce n'est pas sa capacité à elle, c'est la capacité de Dieu. C'est son œuvre. C'est lui qui produit des choses par sa force, par sa sagesse, par sa grâce. C'est son fruit. Et donc, Dieu nous le donne gracieusement et on l'a tous. Tout ce qu'on doit faire, c'est bien laisser le Seigneur nous remplir pour le faire et puis en user, le faire fructifier, faire en sorte que ça se multiplie, que cela produise du bon fruit. Et là, on a l'exemple d'Étienne. Immédiatement, qu'est-ce qu'il a fait, Étienne? Il s'est converti à Jésus-Christ. Eh bien, il s'est mis à servir. Il avait une bonne réputation dans l'assemblée. C'était un bon serviteur. C'était le premier de la liste. On a dit, mais Étienne, parce qu'il était rempli de foi, rempli d'Esprit Saint, il servait déjà ses frères. Il était déjà en train de faire fructifier le peu qu'il avait. Et comme il l'a fait, alors eh bien Dieu a dit, mais celui-là, je vais m'en servir pour servir aux tables. Et il s'est mis à servir aux tables. Et puis, comme il continue à servir, le Seigneur dit, mais maintenant, je vais le prendre et je vais l'utiliser pour la parole de Dieu. Dieu se sert de ceux qui servent. Simplement être un diacre potentiel, aimant le Seigneur, prêt à tout faire pour lui, être disponible. Dans la parabole des talents, il y a donc deux serviteurs qui reçurent respectivement 5 et 2 talents. Et on lit qu'ils ont fait fructifier leurs talents, en sorte que, bien, le premier qui a reçu 5 talents, il a rendu 5 talents au Seigneur. Il avait gagné 5 talents. Et puis le deuxième qui avait 2 talents, il a rendu 2 talents au Seigneur. Regardez Matthieu 25, versets 21 à 23. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. » Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Et on voit ici le bon serviteur, il est accueilli parce qu'il a été fidèle. Le Seigneur s'est levé pour Étienne, et c'est comme s'il a dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Étienne n'a pas vécu longtemps sa vie chrétienne. C'était court, hein? Mais tu as été fidèle en peu de choses. Entre dans la joie de ton maître. Je te confierai beaucoup. Et le bon serviteur, il sera accueilli par son Seigneur. Dans cette parabole des talents, on ne va pas tout lire, hein, mais il y a un serviteur qui reçoit 1 talent, 1 petit talent. Mais il va prendre son talent et puis il va l'enterrer. C'est-à-dire, il va pas s'en servir pour Dieu, il va l'enterrer pour Dieu. Ça sera complètement inutile à Dieu. Et vous savez, quand on vit sa vie pour soi-même, et qu'on ne donne pas sa vie à Jésus-Christ, eh bien, on enterre les dons, on enterre ce que Dieu nous a donné. Ça ne lui sert pas, ça lui est complètement inutile. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas repenti de ses péchés, parce qu'on ne l'a pas laissé entrer dans notre cœur par son esprit. Et le Seigneur, eh bien, ne peut pas user de votre vie, faire fructifier votre vie. Ce serviteur-là, il est rejeté. C'est ce qu'on lit dans la parabole, vous pourrez le lire. Il est rejeté dans les ténèbres du dehors parce qu'il n'a pas voulu donner ce qu'il avait au Seigneur. Et je vous demande, où en êtes-vous avec le Seigneur ce matin? Est-ce que vous avez vraiment demandé pardon pour vos péchés? Vous avez vraiment cru que Jésus-Christ a versé son sang, il a versé sa vie, il a donné sa vie sur la croix pour vous? C'est important, hein? Parce que c'est ça qui détermine la suite. On ne sait pas quand on va partir. Et il faut être prêt. Un jour, on passera de l'autre côté et le Seigneur nous demandera des comptes. Est-ce que vous avez offert votre vie est-ce que vous faites fructifier ce que vous êtes pour le Seigneur ? Dieu nous a donné ce récit et cet exemple d'Étienne, et il nous a aussi donné cette parabole des talents en Matthieu 25, pour que nous soyons tous encouragés à devenir des bons serviteurs. Il veut que nous soyons des bons serviteurs, comme Étienne et comme les autres qui sont décrits dans la parole de Dieu. Des serviteurs qui sont fidèles dans les petites choses, travaillant pour le Seigneur, non pas dans les efforts que peuvent faire la chair, mais dans le repos de l'Esprit Saint. Et c'est pas quelque chose qui est trop grand et qui est hors de notre portée. Parfois, c'est ce qu'on se dit. On se dit, mais c'est impossible. C'est impossible. C'est pas hors de notre portée. Si le Seigneur nous le montre, c'est que c'est son plan, c'est qu'il le veut pour nous, mais simplement, il faut être vide. Et si c'est hors de notre portée aujourd'hui, c'est parce que, il y a plein de choses dans notre cœur. On est rempli de plein de choses. Alors, c'est hors de portée. Il faut confesser, il faut se donner, il faut renoncer, il faut se vider et dire « Seigneur, remplis-moi, remplis-moi ». Dieu veut qu'on soit simplement des vases vides, qui ne vivent plus pour eux-mêmes. Alors, il va remplir notre vase et on va devenir des bons serviteurs. On va s'incliner dans la prière.